12h54 sur France Culture, l'heure de vous retrouver, Olivia Gesbert, pour la Grande Table, deuxième partie.
Merci beaucoup Thomas Cluzel, avec notre invité, il s'appelle Jean Rouault, il est écrivain, c'est-à-dire romancier, mais aussi essayiste, et juste avant le confinement, il a fait paraître une sorte de réflexion coup de gueule sur l'époque, sur nos manières de vivre, ça s'appelle L'avenir des simples, et il vient nous en parler aujourd'hui parce que c'est tout autant d'actualité. En route pour l'inconnu, épisode 1 de cette nouvelle série que nous ouvrons aujourd'hui dans l'actualité de la vie des idées. Transformer la colère en force, je le cite, « Hormis vivre sous une cloche martienne avec les colons d'Elon Musk, aucune frontière n'arrêtera la catastrophe, aucune directive mondiale qui sera immanquablement détournée par les escrocs de la finance ou les gouvernements vandales, reste cet homme ordinaire qui, depuis l'état souverain de son corps, a ce pouvoir de douanier de n'accepter pour lui que ce qui est bon pour notre demeure commune. » Le ton est donné, invité l'écrivain Jean Rouault, Goncourt 1990 pour les Champs d'honneur. Après romans et essais, il a entamé en 2011 avec « Comment gagner sa vie honnêtement », une autobiographie littéraire, « La vie poétique », dans le dernier volume « Kiosque » apparu l'an dernier. Il vient de publier chez Grasset, son éditeur, « L'avenir des simples, petit traité de résistance ». Bonjour Jean Rouault.
Bonjour.
Publié ou écrit, en tout cas largement avant la crise épidémique, avant le confinement, disponible aujourd'hui en librairie, qui est ouverte depuis quelques jours. Ce livre, est-ce qu'il vous donne raison? En tout cas, cette réflexion que vous avez pensée il y a quelques mois sur la société, sur l'état du monde et l'état de nos vies, est-ce qu'il vous semble toujours d'actualité ou est-ce qu'il y a des mots, des traits que vous changeriez?
Il y a certainement des traits, puisque de toute façon, je l'ai écrit en 3 mois, avec cette idée que je n'y aurais pas de reprise, puisque l'actualité va tellement vite qu'une chose écrite un jour et caduque le lendemain, à nouveau. Enfin, j'avais des tas d'événements comme ça qui changeaient tout le temps. Donc l'idée, c'était de faire un état des lieux entre septembre 18 et décembre 18. Mais maintenant, ce qui est apparu pendant ces 2 mois de confinement, donc c'est effectivement l'appropriation du temps, à savoir que qu'est-ce qu'on fait de ce temps libre dont on est toujours privé et dont on est sciemment, volontairement dépossédé. Je parle de cette affiche dans le métro, c'était pour Uber Eats, qui était un diptyque. D'un côté, il y avait un type qui montait des marches virtuelles, vous savez, un stepper ou je sais pas quoi, et c'était 45 minutes. Et de l'autre côté, il y avait quelqu'un qui montait vraiment des marches, c'était le livreur. Et c'était marqué cuisine 0 minute. Donc on voit bien que
Uber Eats, c'est une application pour commander
des plats,
de la nourriture
à préparer. Et donc on voyait bien qu'on nous poussait toujours du côté de la modernité et du progrès à ne pas faire la cuisine. D'autres s'en chargeraient pour nous. Or la cuisine, c'est la chose la plus ancienne. C'est grâce à ça qu'on a traversé des centaines et des millions d'années. Et avec des inventions absolument géniales, comment garder le vin toute l'année, le raisin toute l'année, ben vous faites du vin. Comment garder les fruits, vous faites des confitures, etc. Donc c'est un rapport au monde, de transformation du monde, qui nous a porté. Et cette dernière chose là, qui est, à savoir ce plaisir qu'on pouvait avoir à faire la cuisine, on était en train de nous l'enlever. Ne vous occupez plus de rien. Et ils font des appartements maintenant sans cuisine à Paris, parce que ça devient extrêmement vulgaire de tourner sa béchamel. Et donc ce temps qui a été donné, les gens se l'ont réapproprié pour retrouver ce dont on les avait dépossédés, c'est-à-dire la cuisine, le bricolage, le jardinage pour ceux qui en avaient la possibilité, c'est-à-dire renouer un lien avec la terre-mère. Et au moment où on sait que cette terre-mère est complètement moribonde et qu'on est en train de la ruiner au nom de ces idéaux de progrès.
Tout à coup, par la force des choses, et pour reprendre un terme que vous employez, Jean Rouault, on a arrêté, suspendu la dégringolade culturelle dans laquelle nous étions.
Il y a eu tout le monde pour occuper ce temps, à part retrouver ce savoir-faire, ça a été comment s'occuper l'esprit. Et s'occuper l'esprit, bien sûr, que les séries en ont sans doute profité, mais la lecture aussi, la réflexion. Il y a tout un tas de choses que vous ne pouvez pas mener. C'est pour ça que cette idée que les gouvernants puissent avoir une réflexion, c'est un oxymore. Quand vous êtes pris toute la journée à répondre à 50 000 sollicitations, vous n'avez pas ce temps, ce recul qui vous permet de penser le monde. Et sans ce recul-là, sans ce temps-là, eh bien, vous êtes le jeu de toutes ces grandes manipulations qui sont ces grandes machines à profit comme ça, où vous servez uniquement de doigts à gaver. Hein. Donc cette prise de temps, c'est par là que passe la vraie révolution. C'est la préparation du temps, parce que c'est aussi un temps d'étude et un temps de réflexion.
Cette accélération du temps, elle s'est aussi traduite, selon vous, par une amnésie due ou des savoir-faire. Hein. Vous l'évoquez avec la cuisine, avec le jardin, le bricolage, ces choses toutes simples qui sont aussi culturellement essentielles et au cœur de nos manières de vivre. Vous avez le sentiment que dans ces dernières années, on nous a coupé du réel, mais qui ?
Il s'agit de faire profit de tout. Qu'est-ce qui échappe au profit ? C'est quand tout seul dans votre coin, vous êtes en train de faire quelque chose. Et soudain, il y a des gens qui se disent, mais attends, ça, on pourrait en tirer profit de ce qu'il fait tout seul, donc on va le faire à sa place, et on va lui faire acheter, on va lui faire consommer ce qu'il pouvait produire tout seul avant. Je suis pas jeune je me souviens que par exemple les yaourts enfants ça ne se trouvait pas en pot, c'était un yaourt, ça se fabriquait, hein. Et il y a 100 000 choses comme ça. Et peu à peu comme ça, tout tombe au point d'être coupé radicalement de la source première qui est notre habitat, qui est la terre, et de nous aveugler sur les conséquences. Parce que le haut nom de ce progrès et de ce profit, on passe à la trappe tout ce dont constate les méfaits, à commencer par ce réchauffement climatique que tout le monde constate.
Et vous pointez notamment dans cet essai, Jean Rouault, dans ce livre de réflexion, les collusions, celles de l'oligarchie financière. Vous pointez les GAFA aussi, et la manière dont ils se sont introduits dans tous les pans de nos vies. Ils vous font peur, ces multi-monstres, ces maxi-monstres ?
Ce sont vraiment des multi-monstres. Bien sûr, ils font peur. Regardez là, au nom du traçage numérique lié au virus, on va bientôt avoir une puce implantée comme le prince Charles là et on sera entièrement dépendant, c'est-à-dire que on pourra analyser nos besoins, c'est-à-dire que soudain on aura un besoin de sucre à 5h55 et à 5h56 il y aura un Mars qui nous passera sous le nez, vous voyez, nous sommes transformés exclusivement en machines à consommer. C'est-à-dire que ce qui est la chose la plus chère, la plus précieuse, qui est la liberté, pour laquelle il faut du temps, cette liberté qui a toujours été suspecte, parce que c'est par cette aspiration à la liberté qu'on a fait les révolutions, on veut absolument tout combler de nos vies pour qu'il n'y ait plus un seul écart qu'on puisse s'approprier comme ça. C'est une machine infernale. Je sais pas conduire, donc même ce plaisir de conduire, par exemple, on vous explique que non, pas du tout. Maintenant, vous allez avoir une voiture sans chauffeur, etc., qui est une catastrophe écologique, mais bon, comme les autres, mais en pire. Et donc de nous rendre dépendants de tout. Et évidemment que ça provoque une amnésie générale, parce qu'il faut faire oublier qu'à un moment, on a pu agir autrement.
Dans ce livre, vous aviez envie de plaider pour un retour à la simplicité, de plaider la simplicité comme vertu. Qui sont ces simples auxquels vous promettez un avenir radieux ?
Alors, bon, les simples, ce sont les plantes médicinales qui étaient cultivées dans les couvents et qui étaient donc destinées à soigner. Et on sait bien avec les huiles essentielles qu'on peut faire des tas de choses aujourd'hui. Et donc, évidemment, il y avait dans le terme de simple, il y a le côté non pas simplet, mais celui qui refuse de complexifier à loisir les choses quand on peut les faire simplement. Là, c'est ce que Orwell appelle l'homme ordinaire. Il a une phrase très drôle quand il dit « Vous devez être un intellectuel, jamais un homme ordinaire ne tiendrait des propos aussi stupides ». Et en fait, le livre est parti de cette image du simple, de celui que l'on dit idiot, parce qu'au lieu de regarder la lune que pointe le sage, il regarde le doigt du sage. Et le sage, c'est-à-dire on prête au sage une espèce d'autorité supérieure. Celui, le sage, c'est lié au savoir, à la connaissance, et donc à la maîtrise de l'esprit et tout. Et il y a ce type qui autoritairement vous demande de regarder la lune, et si vous la regardez pas, il vous traite d'idiot. J'appelle ça un flic, hein, ou un indique. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui évidemment travaille pour autre chose que pour lui. Il cherche délibérément à détourner notre attention. Vous savez, c'est toujours le truc. Oh, t'as vu le pigeon, puis on vous pique votre portefeuille. Et donc cette image-là où délibérément on traite d'idiot celui qui quand même s'occupe de regarder qu'est-ce qu'il nous veut celui-là qui nous pointe la lune, c'est exactement la machine infernale de la propagande. C'est-à-dire celui qui ne regarde pas la lune comme tout le monde est traité comme un idiot et donc comme un simple, puisque le sage, lui, est évidemment un esprit compliqué, chargé, etc. Et on est obligé de lui faire confiance au lieu que l'idiot, ben voilà, c'est celui qui regarde le doigt. Or, le doigt, c'est celui qui manipule, le doigt, c'est celui qui ordonne, le doigt, c'est celui qui mène notre vie et qui nous empêche de la mener autrement.
Mais quelle est cette lune qu'on ne cesse de nous promettre et de nous indiquer pour vous, Jean-Raoult, et qu'on regarde assis, aveuglé?
Écoutez, c'est des choses qu'on entend tout le temps. Il se trouve que hier, on est remonté en voiture et on a mis la radio un petit peu. Et c'était une radio musicale. Infernal, le brouhaha des publicités, etc. Et on n'arrête pas de vous faire miroiter. On a l'impression que on peut tout avoir gratuitement.
C'est la consolune, en fait.
Oui, c'est ça. C'est exactement. Et donc là, vous achetez une voiture, mais vous la paierez dans 2 ans. Vous pourrez rouler aussi longtemps que vous voudrez jusque-là. Les promos dans les magasins. Enfin, on a l'impression que les multimonstres sont extrêmement bienveillants puisqu'ils passent leur temps à nous offrir tout ce que l'on veut. Tout ce qu'on ne veut pas non plus, bien entendu, puisque c'est quand même le but de l'opération. Et donc on est sans arrêt avec des lunes formidables qui sont évidemment des leurs.
Vous citez dans ce livre, L'avenir des simples, Jean-Raoult, un autre aphorisme prophétique. Celui qui croit qu'une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste.
Oui, et c'est un économiste qui a dit ça.
Kenneth Boulding.
Voilà. Et l'idée de progrès s'est faite en sachant qu'on allait pouvoir exploiter de manière infinie toutes les ressources de la Terre et en tirer profit pour nous-mêmes. Alors au début, c'est très bien. Les machines permettent aux chevaux de ne pas être battus comme plâtre. C'est quand même ça, comme ça que Nietzsche est devenu fou quand il a vu comment un cocher s'acharnait sur un cheval. Donc il y avait évidemment que le progrès a eu des tas de retombées positives, les vaccins, tout ce qu'on sait. Mais cette machine infernale est en train de nous broyer maintenant. Et donc au lieu de dire on va compter sur le progrès pour nous sortir d'affaires, c'est demander aux pyromanes de nous sauver du feu, quoi.
Voilà. C'est ce que vous avez ressenti, là encore, pendant cette période de confinement? Parce que c'est vrai que dans ce livre écrit, donc en 2018, vous questionnez aussi le poids de la science et le pouvoir des scientifiques. Science et raison sont devenues les armes létales du pouvoir, écrivez-vous, Jean-Raoult. Pourquoi cette méfiance?
Parce que la science est devenue extrêmement sophistiquée, elle a besoin de moyens, et les moyens viennent de ceux qui ont intérêt à ce que on cherche dans leur sens.
Voilà, c'est le profit qui dicte la recherche.
C'est le profit qui dicte la recherche. Pourquoi on a appelé ça les maladies orphelines? C'est parce qu'elles intéressaient personne, parce qu'en gros c'était pas un marché. On est en train de dépenser des milliards à Flamanville, en train de faire marcher une usine nucléaire là, qui ne marche toujours pas, et au lieu que toutes les recherches qui pourraient bénéficier à une énergie plus durable, on voit bien comment c'était ça le truc du livre, c'était comment se mettait en place une contre-propagande pour les éoliennes. Soudain, c'était les chasseurs qui se lamentaient parce que les éoliennes tuaient les oiseaux. Quand même, le plus grand tueur d'oiseaux, c'est pas les éoliennes, c'est quand même les chasseurs. Vous voyez, tout se retournait comme ça. Donc il y avait quelque chose là de et donc la science, bien sûr qu'elle cherche, il y a crédit ouvert dès lors qu'il y a des profits mirifiques à faire. Donc l'idée, c'est là où on a un pouvoir, c'est dans son assiette, en étant végétarien ou végétalien ou végane, en refusant l'alimentation carnée et lactée. Il y a donc 70 milliards de têtes de bataille qui sont là, parce qu'on n'est pas 7 milliards, mais on est bien 80 milliards, qui ne sont là que pour nous alimenter. Or, ces 70 milliards, ces têtes de bétail sont toutes vaccinées, antibiotiques et compagnie. C'est-à-dire que le vaccin contre le Covid, à côté, c'est peanuts. Oui. C'est-à-dire que l'intérêt pour le marché et pour ces grands groupes et ces multimonces de consommer de la viande est phénoménal. C'est 80% des terres cultivées et donc une pollution stratosphérique, puisque sur les terres cultivées pour l'alimentation du bétail, on expérimente aussi OGM, maïs transgénique et pesticides, etc. Il n'y a pas de contrôle pour l'alimentation du bétail qui passe évidemment après, tout ça repasse dans nos organismes.
Donc dans cette période de crise épidémique, vous, Jean Roux, vous n'attendez pas tout d'un vaccin. Si on le trouvait, il n'est pas bien sûr que vous vous laisseriez vacciner, parce qu'il y a eu aussi cette remise en cause, cette remise en question, ces débats pour ou contre la vaccination qui ont été réactivés par la crise.
Alors évidemment, quand vous êtes face à ce genre de dilemme, c'est évident que s'opposer à un vaccin, vous passez pour un monstre. Et il n'est pas question de s'opposer à des vaccins qui ont leur vertu. Mais c'est en même temps voir cette machine terrible qui a un intérêt formidable à vacciner tout le monde, quoi. Et il y a chaque fois qu'un médecin, il y a cette histoire des statines là que l'on donne à passer à des gens qui ont du cholestérol. Et tous les médecins qui s'y opposent sont traités évidemment de charlatans et de mages à l'ancienne, ou je ne sais quoi. Qui s'appelle ce professeur qui a été à l'origine de la découverte du virus du sida, le Montagnier. Quand il a eu des réserves sur l'origine du virus à Wuhan dans les laboratoires, etc. Donc ce type qui est une sommité, qui est prix Nobel, etc. Soudain, on s'est mis à le traiter d'idiot. C'est-à-dire que le même qui avait été vanté pour ses trouvailles, à partir du moment où il allait contre l'idée générale, il devenait évidemment l'idiot. C'est-à-dire toujours ce même idiot qui regarde le doigt au lieu de regarder la lune.
Ce que vous dites, c'est que d'entendre aussi des voix dissonantes dans ces moments-là, de laisser la raison et la critique agir ou se développer sont particulièrement compliqués. On l'a vu aussi avec cette figure du médecin, de l'épidémiologiste Didier Raoult, durant cette période, ces batailles d'experts au milieu desquelles on a aussi eu le sentiment d'être un peu pris en otage.
Et alors toujours avec ce terme là qui est arrivé là, l'expert, il y a déjà quelques années, l'expert. Donc vous imaginez toujours que c'est Einstein qui va débarquer, puis vous voyez arriver Roger Dugenou, etc. C'est pas plus que ça, et qui a un avis très tranché. C'est comme c'était autrefois ces vétérinaires à la télévision qui n'avaient pas vu un chien depuis 30 ans. Et aussitôt, il y a la machine qui se met en marche pour traiter les uns et les autres d'idiots ou de type dangereux, etc. Et toujours au nom de la raison. Pour moi, la raison, le triomphe de la raison, c'est fait sur une carence de l'imaginaire. Chaque fois qu'on vous dit il faut raison garder, il y a une entourloupe. Soit quelqu'un est incapable de voir au dehors, de ces quatre murs comme ça du réel, soit il a intérêt à ce qu'on ne regarde pas de l'autre côté du mur.
Quelle place pour l'imaginaire dans ces lignes, justement, celles que vous signez, Jean Roux, l'avenir des simples ?
L'imaginaire, pour moi, c'est la grande affaire, vraiment. Et c'est un livre qui fonctionne poétiquement, c'est-à-dire par image, par association. J'ai parlé de l'image du sage qui montre la lune. C'est l'image du diptyque entre celui qui marche, de l'affiche, entre celui qui marche virtuellement et celui qui monte vraiment à porter les plats là, pour Uber Eats. C'est comment ces images-là, associées, créent un sens qui dépasse la simple réflexion comme ça que l'on peut se faire sur le monde. C'est l'imaginaire j'appelle moi un imaginaire poétique, c'est-à-dire il est qui met en relation les événements qui normalement ne doivent pas être rapprochés et soudain rapprochés nous donne un autre sens, une autre lecture du monde.
On a d'ailleurs beaucoup sollicité depuis le début de cette crise sanitaire les écrivains, les metteurs en scène, les cinéastes, pour qu'ils nous aident à imaginer le monde de demain, c'est-à-dire qu'ils réhabilitent aussi les imaginaires sans en faire des voix prophétiques pour autant.
Non, mais il y a une chose qui est quand même hallucinante, c'est les auteurs de science-fiction des années 50-60, comment ils ont anticipé tout ça, ce monde actuel. Je me souviens même du film Soleil Vert. Mon Dieu, on y est. Et c'est ces habitants qui vivent dans un brouillard chloré et en fait tous les corps deviennent des granulés non pas pour les chiens, mais pour les vivants.
Voilà, de la science-fiction à la fiction.
Appliquée.
Exactement, la fiction tout court. On a sollicité les écrivains, puis parfois ce sont les artistes eux-mêmes qui ont choisi de prendre la parole pour demander au gouvernement certaines mesures. C'était le cas notamment de Vincent Lindon, qui a écrit et filmé, s'est filmé dans un long plaidoyer pour l'hôpital public, pour rétablir aussi un impôt pour les plus grandes fortunes qu'il a nommé la taxe Jean Valjean.
Traversé par le flot incessant des commentaires, désorienté par l'addition d'analyses souvent contradictoires, j'ai tenté de réfléchir à la question la plus banale. Mais comment avons-nous pu en arriver là? À cette situation inédite, littéralement stupéfiante. Spécialiste en rien, intéressé partout, il m'a paru pourtant utile de contribuer en faisant entendre une voix simplement citoyenne. Suis-je légitime pour interpeller nos dirigeants, tous professionnels de la chose publique, tous diplômés des meilleures écoles? Pas plus qu'un autre sans doute, mais pas moins non plus. Ayant pris soin de consulter nombre d'avis autorisés, notamment dans le domaine de la santé, où le professeur André Grimaldi m'a apporté son éclairage. Comment ce pays si riche, la France, sixième économie du monde, a-t-il pu désosser ses hôpitaux jusqu'à devoir, pour éviter l'engorgement des services de réanimation, se résigner à cette seule solution moyenâgeuse, le confinement? Nous qui, au début des années 2000 encore, pouvions nous enorgueillir d'avoir le système de santé le meilleur du monde. C'était avant. Avant que s'impose la folle idée que la santé devait être rentable, puisque tout désormais devait être marchandise, jusqu'à la vie des hommes.
Voilà, dans la citation des débuts, cette question, beaucoup se la sont posées. Comment en est-on arrivé là? Vous également, Jean Roux, à la manière de Vincent Lindon, vous vous l'êtes posé et vous cherchez des réponses. Est-ce que vous êtes aussi posé cette question, comme lui, de votre légitimité? Est-ce que vous pensez devoir vous justifier de prendre la parole aujourd'hui ou prendre la plume il y a 2 ans pour écrire L'avenir des simples et appeler à apporter votre pierre?
Vous connaissez le chanteur ou le musicien américain Moby. Et un jour, j'ai vu une petite. D'ailleurs, j'avais entendu. Il avait fait déjà une intervention, Lindon, formidable cet homme. Et donc, Moby dit quand on a un petit nom et qu'on a une cause à défendre, eh bien, on en profite. Et donc, j'avais une cause, c'était donc la cause animale, c'était cette idée que, en plus, que non seulement la cause animale était une cause juste, morale, mais qu'en plus, elle pouvait avoir un poids justement sur quoi on n'arrive pas à peser, c'est-à-dire surtout cette formidable machine à profit, puisque ces 70 milliards de têtes de bétail et ces 80% de terres cultivées sont une source de profit extraordinaire pour les multi-monstres. Et donc, simplement, à partir d'une décision morale individuelle, faire un projet politique collectif. C'est-à-dire que si, on diminue, on arrête, eh bien tout le monde s'en portera mieux, soit parce que on n'aura plus les artères engraissées, les animaux parce qu'ils ne souffriront plus, l'atmosphère parce qu'elle deviendra plus respirable, et la chose formidable, c'est qu'en plus, les multimonstres vont en pâtir. Donc on voit bien comment ils ont peur lorsque j'ai en fait une des origines aussi de une des raisons pour lesquelles je me suis lancé dans ce livre, c'est quand j'ai vu là aussi cette contre-propagande qui se mettait en place, le bio qui était pas si bio, les aliments bio qui étaient pas si bons que ça, les véganes qui étaient carencés, donc qui étaient des malades.
Oui, alors parce que vous dénoncez à la fois le traitement qu'on réserve aux animaux, mais aussi le sort qui est fait à ceux qui prennent la défense des animaux ou qui se déclarent véganes. Ouais. Et vous dites les discours se sont complètement inversés. Ouais. Ce sont les véganes qui deviennent les coupables.
Oui, et ben il y avait à un moment, ils avaient discuté à l'Assemblée une proposition comme quoi on assimilait les véganes et les terroristes. C'est une chose aussi incroyable. Mais c'est de la même nature que de faire payer une taxe sur les abris de jardin. Vous voyez, c'est pareil. C'est-à-dire que dès qu'on voit un danger quelque part, un abri de jardin, c'est quelqu'un qui va faire son jardin dans son coin, donc c'est pas souhaitable. Il faut qu'il aille au marché. Enfin, au supermarché surtout.
Et c'est pas forcément le choix d'être végane, ça peut être aussi ce qui était pointé du doigt, les actions menées par certaines associations assez radicales.
Écoutez, c'est vrai, c'est pas très très malin d'asperger une vitrine de faux sang, une boucherie. Il y a pas de, c'est pas là qu'il faut s'attaquer. Mais enfin, c'est quand même pas le Bataclan non plus. Faut pas pousser, voyez. Et donc la chose la plus simple, c'est de se dire qu'effectivement, depuis mon assiette, je peux avoir une même action si j'arrive à convaincre les uns et les autres. Écoutez, une des vertus de ce livre, c'est qu'il y a quelques personnes qui ont arrêté, en tout cas, de consommer de la viande. Voilà.
Et donc, là, vous vous dites...
Eh ben, j'ai bien travaillé.
J'ai servi à quelque chose.
Voilà.
Ce livre, on l'évoquait, est aussi un plaidoyer pour l'écologie, pour le vivant. Cette idée aussi, et on le voit aujourd'hui, que la Terre se rebelle. Qu'est-ce que cette crise sanitaire que nous venons de traverser, dont nous ne sommes pas totalement sortis loin de là, nous a aussi appris sur la valeur de la vie, de ce qu'est ou de ce qui fait le sel de la vie pour vous aujourd'hui, Jean Rau?
C'est-à-dire que le Covid, là, a été... ça n'a pas été dramatique. Les victimes, c'est moins que la guerre en Syrie. Mais soudain, ça a été comme une métaphore de la catastrophe à venir. C'est-à-dire que soudain, le monde pouvait s'arrêter. Soudain, le monde pouvait dire je n'en peux plus, je ne peux plus produire, je ne peux plus vous donner. Voilà, je crie grâce. Et ce qui était étonnant, c'était de voir comment les gens ont entendu ça tout de même, parce qu'il y avait avec des conséquences extraordinaires. D'abord, la pollution atmosphérique qui a quand même considérablement affaibli, et puis ces images formidables de deux chevreuils rentrant dans une ville, dans le sud de la Drôme, là où j'ai une petite maison, il y a des vautours qui sont plus loin là dans les Baronnies. Et pour la première fois, il y a 5 vautours qui se sont venus survoler la toute petite commune plantée en haut d'une colline, comme ça se fait là-bas. Et comme si les animaux aussi avaient été, comme si les animaux avaient été déconfinés pendant que les hommes étaient confinés. Vous voyez ? Donc c'est d'apprendre que on a vu des dauphins dans le port de Marseille. Enfin, ça veut dire qu'on repousse toute cette vie qui est une vie qui nous ravit, puisqu'on passe son temps à regarder des flippers le dauphin et aller dans les marinas et aller au bout du monde pour voir les baleines. Donc cette vie, elle est là, elle ne demande qu'à se manifester, mais il faut qu'on lui laisse la place.
Sans la sanctifier, vous défendez, louer cette figure pour la jeunesse, qui est celle de Greta Thunberg, cette fonction aussi de porte-parole, d'émissaire qu'elle a su incarner ces derniers temps. Et elle aussi a été beaucoup pointée du doigt ou critiquée pour ce faire. Elle a aussi eu ses ennemis, elle a divisé, clivé, comme on dit aujourd'hui, on l'écoute.
What have you done to change your life? Like you said, you do things that you can do to look yourself in the eye and know you've done enough. What have you done?
I have stopped flying and I have gone vegan. I have a shop stop. It means you don't buy new things unless you absolutely have to. And just things like that, but especially I'm trying to communicate what is happening and try to put pressure on people in power. And
all right, so
Greta Thunberg, invitée d'un talk show, interrogée par la journaliste. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez fait pour changer votre vie? Elle raconte, j'ai arrêté de prendre l'avion, je suis devenue végétalienne, j'ai arrêté d'acheter ce qui ne lui semble pas bon aujourd'hui et pas nécessaire. Juste des choses comme ça, très simples. Mais surtout, j'essaie de communiquer sur ce qu'il se passe en essayant de mettre la pression sur les personnes au pouvoir. C'est aussi la question qu'on peut ou qu'on a envie de vous poser, Jean Roux, celle de l'effet de nos décisions individuelles, comment s'appuyer sur nos pratiques pour faire pression sur le politique, pour un changement que vous appelez de vos voeux aussi de plus grande ampleur.
Mais je ne crois pas à la politique au sens où on l'entend depuis deux siècles, c'est-à-dire cette machine destinée à prendre le pouvoir pour changer les choses. Et ça a été le schéma appliqué pendant deux siècles.
Vous croyez en l'homme ordinaire, vous l'écrivez, plutôt ça que la grande révolution.
Il est plutôt un amoncellement de petits matins plutôt que le grand soir, oui. Mais après, c'est la question du pouvoir. Qu'est-ce que, par exemple, politiquement, ici, un État français, quel est son pouvoir? Pratiquement rien, tout lui passe par-dessus la tête. Ça se passe à Francfort, à New York, à Washington, etc. Mais son seul pouvoir, c'est un pouvoir répressif, c'est un pouvoir policier, c'est ce qu'il fait. Voilà. Mais il n'y a pas cette idée que se battre tous les 5 ans pour envoyer votre favori à 6%, c'est pas la peine. Toute la machine est suffisamment bien rodée pour que ça n'arrive jamais. En revanche, il faut on est témoin comme ça de tous ces changements individuels qui se passent même ici à Paris, mais un peu partout, de ces associations. Le truc le plus ancien, c'est les AMAP, par exemple. Mais les AMAP, ça permet à un agriculteur, à un maraîcher de vivre toute l'année parce qu'il y a des gens qui s'engagent tous les mois à acheter une partie de sa production. Donc ce sont tous ces systèmes parallèles comme ça qui par un vrai mitage n'ont pas besoin de passer par le vote politique. Alors le vote politique, là où on peut agir, c'est au niveau des communes. Les communes ont le pouvoir de créer des cantines bio, d'installer la permaculture à proximité, il y a des transports publics, les services publics. Il y a, à ce moment-là, on peut agir. Mais cette idée que tous les 5 ans, on pourrait envoyer quelqu'un qui réglerait tous nos problèmes, enfin, on a bien vu que c'est une vue de l'esprit. Donc ça sert à rien de se casser la tête avec ça.
Pour terminer, je posais la question de la légitimité, Jean Rouault, cet essai, cette réflexion, ce petit traité de résistance, l'avenir des simples.
Le sous-titre est de l'éditeur.
De Grasset. Est-ce que cet essai, vous l'inscrivez très logiquement dans le prolongement de vos romans, de votre œuvre littéraire?
Écoutez, quand j'ai commencé avec Le Champ d'honneur, on m'a dit que je parlais des petites gens, ce qui m'a toujours énervé, parce que je vois pas en quoi ces gens-là étaient plus petits que les autres. J'étais amené à fréquenter des gens dits conséquents que je trouvais pas plus intéressants ou pas plus subtils. Donc, c'était pas. Donc, d'abord, j'ai pas, il y a cet intérêt, effectivement, pour ces gens qu'on a vus en première ligne ici, dont on a vu tout l'intérêt, parce que ce sont eux qui ont porté le pays pendant 2 mois. Les gens de petites gens, etc. Mais c'est aussi une réflexion plus générale, puisque je m'intéresse à la préhistoire, j'écris des livres dessus, et donc c'est presque une dimension anthropologique comme ça. Et je crois que tout ce que j'ai écrit, s'il y a une chose dont je suis à peu près content, c'est de voir que tout ça est très très cohérent, qu'il n'y a pas un livre exogène dont on se demanderait qu'est-ce qu'il viendrait faire là. Non, c'est réflexion sur...
Il n'y a pas deux ni trois Jean Rouault, voilà. Il y en a qu'un qui se réunit d'un livre à l'autre.
J'ai pas les moyens.
Il en a fallu aux hommes du paléolithique supérieur de la patience pour traverser une période glaciaire de 40 000 ans à qui rien n'était donné sinon le dénuement, le froid et la peur. Parce que ce livre est aussi un éloge de la patience, cette patience que l'on a perdue, qui a été mise à l'épreuve avec, selon vous, notamment l'arrivée des portables. Merci beaucoup, Jean Rouault, d'avoir été avec nous. L'avenir des simples, c'est chez Grasset. Un grand merci à Gilles Blanchard, à la réalisation, à Swat Boukorsa, à la technique, et à Bruno Barada, à la programmation, qui était là avec nous aujourd'hui. Très bel après-midi sur France Culture.